Une vie, une œuvre, Jean-Luc Lagarce, 1957-1995. Il écrit « Dans vos crises de désespoir, vous avez peut-être constaté que vous n'êtes pas du tout désespéré. Désespéré, vous seriez déjà mort. On ne peut pas renoncer. Ne jouez donc pas les solitaires intempestifs. Car si vous continuez à avoir de l'inclination pour vous-même, ne voyez-vous pas dans l'abandon où vous êtes une lueur des dieux. » Ce sentiment d'abandon imprègne dès l'enfance celui que Lucien et Micheline Atoun ont accompagné au fil d'une œuvre théâtrale aussi spectaculaire aujourd'hui que discrète, du temps où avec sa compagnie La Roulotte, il proposait ses pièces, en compagnie de celles de Beckett ou Ionesco. Sa hantise en fiction portait la voix de celui qui revient auprès des siens pour annoncer sa propre mort, s'est incarné dans le réel avec l'annonce du sida qui, durant 7 ans, installa en lui son virus. En 1990, c'est à Berlin qu'il écrit « Juste la fin du monde » avant son dernier texte, « Le pays lointain ». Julien Thèves signe avec Nicolas Berger ce « Une vie, une œuvre » Jean-Luc Lagarce.
On savait qu'il faisait des jolies pièces, des jolies choses. Mais ouais, on n'aurait pas pensé qu'aujourd'hui, il serait si célèbre. Ouais, on n'aurait jamais imaginé.
Ça aurait été un peu plus tard. Le docteur m'avait expliqué, parce que les médicaments n'étaient quand même pas au point comme
aujourd'hui.
Avec, ouais. La trithérapie n'était pas...
Ouais.
Là, on est aujourd'hui à Besançon... sur l'esplanade de Jean-Luc Lagarce.
De Jean-Luc Lagarce, qui a été inauguré en 2007.
À côté du Centre Dramatique National de Besançon.
Oui, oui. Et cette année, il y aura la sortie du film « Juste la fin du monde » par le réalisateur Xavier Dolan. Une belle émotion.
Oui.
12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer, non. La famille, quoi. Il arrive qu'on naisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang, et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Et tout à coup...
Jean-Luc Lagarce, 1957-1995, juste avant la fin du monde.
Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs, qu'est-ce qui se passera? Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde.
Vous venez d'entendre pour la première fois cette pièce lue par des comédiens que vous ne connaissiez pas. Est-ce que vous avez reconnu vos mots?
Oui, quoi que c'est pas. J'étais surpris par d'abord la distribution, enfin l'apparence physique de la distribution.
Théâtre ouvert, une émission de Lucien Atoun. Ce soir, Carthage encore, de Jean-Luc Lagarce.
Je n'ai pas très bien compris. Vous êtes enseignant ou étudiant?
Non, je suis étudiant et je suis maître d'internat à côté. Enfin, pour.
Et à quel moment vous êtes auteur?
Ben, quand il me reste un peu de temps, quoi.
Plus rien à dire, monsieur Lagarce. Ça va? Vous repartez quand à Besançon?
Demain.
Demain?
Oui, oui, demain.
Et l'année suivante, une fois encore, l'année suivante. Retourner au bord de la mer. Traverser à nouveau la France en train. Repartir en tournée. Revoir l'hôtel Phoenix à Lyon et l'autre, celui-là, d'Angleterre, à Neuchâtel, Suisse. Ne plus être nulle part, être partout. Se promener. Répéter à Paris, rue de Charonne, peut-être. Se souvenir d'Alès, où nous étions déjà venus. Et envoyer, de partout, des cartes postales imbéciles. Prendre des autocars dans la brume et dans le froid, l'arbalète en provenance de Zurich, se disputer pour être dans le camion, écouter la voix de Radio Nevers s'éteindre doucement sur l'autoroute. Faire un petit détour par ce mur, pas de théâtre mais bien joli tout de même, et finir un soir dans la tempête en Bretagne. Téléphoner à la maison toutes les nuits, visiter les chambres des autres, hurler de rire au-dessus de lits acryliques des modernes hôtels. S'endormir entre les travées de sièges, à l'heure douce et chaude des réglages, et boire trop de café à l'ouverture des portes. trouver sa place en régie, surveiller les loges, attendre sans un mot dans la pénombre côté jardin, écouter une fois de plus le texte dans les retours, et s'ignorer religieusement lorsqu'on se croise dans l'obscurité. Se faire des clins d'œil, avoir peur et aimer ça. Jouer juste, rien d'autre, faire semblant ou vivre nos vies. Mireille Hersmeyer, comment avez-vous connu Jean-Luc Lagarce? Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez vu ce jeune homme qui avait 20 ans à Besançon?
Ah, mais il n'avait pas 20 ans, il en avait 17, moi, quand je l'ai rencontré.
Vous en aviez vous-même 17?
Moi, j'avais 16 ans. J'étais alors en seconde, dans un lycée, et je m'étais inscrite au conservatoire de Besançon parce que j'avais envie de faire du théâtre. Et dans ma section, il y avait ce grand jeune homme très mince et très filiforme, comme ça, avec une voix très douce. Et donc on s'est rencontrés, voilà. Et lui, il venait faire ses études de philosophie à Besançon, puisqu'il était originaire de Valentigné. Donc il venait à la capitale byzantine pour suivre sa faculté. On a accroché tout de suite. Alors d'abord, on a dit, oh, mais qu'est-ce qu'on pourrait jouer, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et on a décidé donc à 5 ou 6 de poursuivre une petite aventure, d'abord très amateur. Et puis lui, il a dit, mais moi, j'ai écrit des petites choses. Puis alors on lui a dit, bah alors montre-nous tes petites choses. Et puis, d'ailleurs, il le relate dans son journal, il dit, on me laisse faire la mise en scène.
Comment était Jean-Luc Lagarce quand il était enfant, petit enfant ?
Enfant sage depuis la naissance, sage comme une image. Aussi bien dans son lit que dans son parc, il n'y avait pas à s'en occuper. Il était toujours timide. Et puis du coup, à l'école, ben, il n'était pas terriblement aimé parce que c'était un surdoué. Je vais raconter une anecdote. Je l'ai retrouvé attaché après un arbre. Les copains d'école me l'avaient attaché après un arbre. La gentillesse. Et il écrivait tout le temps. Il avait 8-9 ans. Son frère disait, pouh, il s'est encore relevé cette nuit pour taper sur sa machine. Quand il y passait quelque chose par la tête, il fallait qu'il l'écrive. Tout le temps. Et puis à la maison, au fond de la propriété, il y avait un petit arbre où il avait installé sa petite maison, qui voyait la maison, mais personne ne le voyait.
Vous avez 8 ans de moins que lui. Ouais, vous avez quel souvenir de Jean-Luc Lagarce?
D'un grand frère très protecteur, toujours à l'affût de me protéger, de faire toujours attention, même son autre frère qui était turbulent, puis qui l'embêtait surtout. Il battait les garçons.
La maison était située en fait sur une petite butte, et c'était la dernière maison de la rue. D'accord. Et après, c'était les bois, voilà, et il y avait un immense jardin qui allait jusqu'au fond du bois. Donc, c'est vrai qu'on était heureux, on faisait des cabanes, on jouait. On a passé une enfance heureuse.
Donc il y avait le conservatoire d'un côté, et puis parallèlement à ça, il y avait un monsieur qui a été très important pour nous, qui s'appelle Jacques Fornier, qui était professeur dans une espèce d'école qui n'en était pas vraiment une. Ça s'appelait Centre de Recherche et de Rencontre. À l'époque, il y en avait quelques-uns en France. Quand il a compris notre désir de passer professionnel, il nous a proposé de créer avec lui un groupe de recherche le temps d'une session universitaire, et donc en faisant venir des intervenants extérieurs. C'est d'ailleurs lors de ce stage qu'on a rencontré François Béreur. Et donc, en mai 81, on a décrété qu'on allait créer la compagnie professionnelle. On a fait des tournées, mais vraiment improbables, dans des petits bleds, dans le Haut-Doubs, enfin vraiment, bon, où il n'y avait rien. C'est tout juste s'il y avait quelqu'un pour nous ouvrir la porte, et puis il y avait 3 pelés, 4 tondus dans la salle, et ouais, évidemment ça ne marchait pas du tout. Bon, c'est pas un hasard s'il a pris le nom du Théâtre de la Roulotte, c'est que, quand on a créé la compagnie, c'est que c'était le voyage des comédiens.
Il est en train de me demander si ça va. Je lui dis qu'il aura un rôle secondaire parce qu'à force de disparaître, tu vois, d'être sous la douche.
Dis qu'il faut l'attendre.
Journal vidéo de Jean-Luc Lagarce.
Ce matin, les bagages.
Oui, vous avez raison de vous plaindre, je ne vous trouve pas bien. Mais ce reste de fierté de votre déplaire. Ne voyez-vous pas combien il m'en coûte pour me prendre? Ah, si je m'employais, combien ne vous dirais-je pas que je vous aime? Que je suis fâchée de n'avoir pas ce coup de vous publier, qu'on vous prévainc.
Mais c'était un homme très délicat, très drôle. Et puis alors après, dans le travail, c'était assez passionnant parce que, en fait, il ne nous montrait pas du tout, comme certains metteurs en scène peuvent le faire, comment jouer les choses ou quoi, pas du tout. Mais il racontait une histoire sur le personnage. Il laissait beaucoup les acteurs proposer, et si ça ne lui convenait pas, il le disait, bien sûr. Mais tout passait par le dialogue. Je ne l'ai jamais vu s'énerver sur un plateau. Après, si vraiment il avait quelque chose à dire à quelqu'un, soit il lui téléphonait, soit il en discutait après la répétition, etc., etc. C'était la manière douce. Et je trouve qu'il y a une chose qui correspond tout à fait à son écriture là-dedans.
Alors Pascal Vurpillot, nous sommes à Besançon, ville de jeunesse, ville inspiratrice, ville d'écriture de Jean-Luc Lagarce. C'est aussi le siège des Solitaires Intempestifs, la maison d'édition fondée par Jean-Luc Lagarce que vous gérez aujourd'hui. Et nous sommes Place Granvelle.
Voilà, Place Granvelle en fait, où nous avons donc la brasserie. Granvelle, où on venait souvent avec Jean-Luc prendre des cafés, notamment, parce que c'était un très très grand buveur de café. Et juste derrière, il y a le palais Granvelle, avec des arcades sur quatre côtés, et dans la cour de laquelle nous avons joué, notamment Turandot. Voilà, dans les années, dans la dernière année où le théâtre de la Roulotte était encore amateur.
Jean-Luc écrivait dans les cafés, comme ici?
Oui. Voilà, il se mettait à table, il écrivait son journal. Sitôt qu'on arrivait, puis il repliait son journal. Et voilà, ensuite on conversait ou on partait vers des rendez-vous si on avait des rendez-vous.
C'est loin de Besançon, Valentigny, le c'est pays lointain.
À peu près à 80 km. C'est la même région, c'est le même département. Mais c'est pas du tout la même mentalité, puisqu'en fait Valentigny fait partie du pays de Montbéliard, et ici c'est Besançon. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes sur le pays de Montbéliard, surtout à notre époque, hein, dans les années 70, 75, 80, les enfants, s'ils ne partent pas étudier pour devenir totalement autre chose, ils restent dans le circuit et on les case à la Peuge. Voilà.
À la Peuge, aux usines Peugeot.
Une Peugeot, c'est ça.
Je vous montre quand même la viennoise, mais qui ne ressemble plus.
J'ai des milieux ouvriers d'une part, j'ai un milieu plutôt modeste, donc on ne lisait pas de livres parce que, contrairement à ce que croient les bonnes âmes, dans les milieux ouvriers, on n'a pas vraiment le temps de lire des livres, puis on n'en a pas. Mais ensuite, j'ai un milieu très protestant, donc le théâtre, c'est encore maintenant, je suis quasiment convaincu dans ma famille. Ça, ou je sais pas, ouvrir une maison de passe, ça peut se faire à peu près au même.
Donc, on est à la viennoise, salon de thé, pâtisserie, boulangerie, qui existait donc déjà sous cette appellation-là, et où Jean-Luc venait en fait écrire son journal, toujours sur la banquette orange en sky. En fait, il venait petit déjeuner.
Et Jean-Luc Lagarce, sa chambre, elle
sa
était
comment ? Sa chambre, c'était donc une toute petite chambre. Je sais pas, je pense qu'elle devait faire à peine 10 mètres carrés. Oui.
Vous le voyez seulement au café, quoi. C'était jamais...
Voilà, c'est ça. Jamais. On allait le chercher des fois chez lui, mais ensuite, on allait dans les cafés, sur les terrasses. Voilà, ça, c'est une des banques où on allait négocier avec... des découvertes avec Jean-Luc quand il y avait des périodes un peu difficiles au niveau trésorerie. Donc tout le matin, on pensait que c'était le meilleur moyen d'avoir un directeur de banque détendu. Et...
Lagarce racontait ses projets aux banquiers, racontait ses projets aux financiers.
C'est ce qu'il allait faire, où il allait le faire, qui étaient les partenaires. Et en fait, il était là juste pour parler artistique. Puis après, moi, j'enchaînais sur les besoins avec les budgets, avec... Voilà, c'est ça.
C'était quelqu'un de rigoureux quand même. C'était quelqu'un qui faisait des dépenses somptuaires,
Non. C'était très rigoureux. En même temps, c'était une période... c'était quand même les années 80, le début, hein, 80-90, où il était de bon ton, en gros, de faire des découvertes et de ne pas forcément mettre les comptes à zéro en fin d'année. Voilà, il y avait beaucoup d'argent. Et puis, c'était la règle, enfin, quelque part. C'est-à-dire que les metteurs en scène qui prenaient aussi des scènes dramatiques prenaient les mêmes risques, c'est-à-dire, en fait, couraient après l'argent, se disaient, c'est pas grave, on se rattrapera sur l'exercice d'après.
Je ne sais pas si on peut dire qu'il a été éditeur également, ou il a juste été au départ, quelque chose s'est lancé qui ensuite s'est développé après sa mort.
Oui, au départ c'était notamment pour publier les deux premières pièces d'Olivier Py.
Du coup, alors pour parler de Jean-Luc Lagarce, Solitaire intempestif, donc voilà, son œuvre existe maintenant. Quelles sont les pièces qui se vendent le mieux ou qui sont le plus demandées pour la mise en scène?
Les règles du savoir-vivre.
Les règles du savoir-vivre.
Dernier remords avant l'oubli.
J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne.
Oui, mais c'est un petit peu moins quand même. Un petit peu moins.
Juste la fin du monde. Il y a eu au moins 5 réimpressions sur Juste à la fin du monde.
Ouais.
Plus la création de la nouvelle collection classique contemporain.
Ouais. Plus un petit livre qui regroupe.
Sur des articles éditoriaux.
Qu'il avait écrit. Du luxe et de l'impuissance. Qui a un succès qui n'en finit pas. C'est-à-dire, en fait, c'est tous les ans...
Ça, c'est vraiment l'incontournable. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque.
Voilà. Il est joué à l'étranger aussi?
Oui, beaucoup.
Il est traduit?
Il est traduit. Oh, il y a plus d'une trentaine de langues, là, maintenant.
Quel souvenir je garde de cette période, monsieur...
François Béreur, comédien, metteur en scène, éditeur. Les solitaires intempestifs.
L'innocence, voilà, après les rêves, l'utopie et l'innocence. On avait la foi et qu'on s'amusait bien et puis qu'il y avait une inconscience. Je pense qu'on fait toujours ça avec inconscience. Et puis on pensait qu'un jour, Jean-Luc serait un auteur connu et qu'on jouerait ailleurs qu'à Besançon. Au fond, il a écrit avec, Constance... une grande partie de son œuvre entre 1980 et 90. Il était lu sur France Culture, il y avait une lecture dans un festival, etc. Donc il avait un sentiment d'un auteur qui faisait son chemin parmi le sérail. Voilà. Après, quand en 1990, il a écrit Juste la fin du monde et que là, il s'est rien passé et qu'il pouvait plus monter ses projets, etc., comme auteur, etc. Donc il y a toute une période cette année-là qui dit qu'il peut plus monter ses projets comme metteur en scène de ses textes et puis ce qu'il écrit, ça intéresse personne. C'était un auteur qui mettait en scène ses textes. Et puis après, c'est devenu, après 90, un metteur en scène dont on se souvenait qu'il écrivait. En 90, personne ne comprenait rien à Juste la fin du monde. Aujourd'hui, les jeunes gens qui ont 15 ans, ils lisent Juste la fin du monde. Ça leur paraît totalement accessible.
Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant. Et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer, lentement, avec soin et précision, ce que je crois. Lentement, calmement, d'une manière posée. Et n'ai-je pas toujours été pour les autres, et eux tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager et paraître peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir là encore décider, me donner et donner aux autres, et à eux tout précisément, toi, vous, elle, cela encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis, me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître.
Pendant une période, tous les mois, il nous disait « Bon, c'est bon, là, cette fois, j'arrête. La roulotte, c'est fini. Il va falloir vous débrouiller sans moi. Je pars à Paris. En gros, je vais vivre ma vie. » L'impression qu'on le retenait quelque part, prisonnier, en le faisant rester à Besançon, quoi, en fait. Il a vraiment envie de...
Oui, alors je pense qu'il y a eu un désir à un moment donné quand même de vivre une vie parisienne. Bon, alors pour plusieurs raisons, hein, des raisons artistiques et littéraires, oui, si on veut, mais je pense aussi des raisons de vie privée, parce que il faut voir un petit peu ce que c'était d'être homosexuel en province dans les années 80-85. C'était pas forcément facile, hein. Je me souviens plus de la conversation exacte, mais il nous a mis un petit peu dans le fait accompli en disant « Bon, ben voilà, maintenant, je serai quand même la moitié du temps à Paris. » La moitié du temps, hein, parce qu'il avait gardé un appartement à Besançon. Hein. Dans un premier temps, il n'a pas vécu à Paris entièrement.
Eh ben, le premier contact avec Jean-Luc Lagarce, ça se passe grâce à La Poste.
Lucien Atoun.
Nous avons donc reçu un manuscrit qui devait s'appeler « Les vacances ». Et il a dit, voilà, j'ai 19 ans, j'entre à l'université, et il paraît que vous intéressez aux auteurs contemporains. Je lis la pièce, et plus j'avançais, plus je m'ennuyais. Je disais, mais il se fiche de nous, c'est du sous Ionesco, c'est du sous Beckett, c'est du sous Shakespeare. Mais enfin, je suis allé jusqu'au bout, et là, dans les dernières pages, j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être une piste à suivre, et je lui ai écrit, et alors, quelques temps après, il a renvoyé une seconde pièce, et dans l'équipe de Théâtre Ouvert, nous avons décidé de faire un tapuscrit, et c'est comme ça que l'aventure avec Lagarce a commencé, et puis, depuis l'âge de 19 ans, on ne s'est jamais plus séparés, et c'est quelque chose de bouleversant pour nous, parce que on lisait tout ce qu'il nous donnait, on disait très franchement les choses, parce qu'on n'a jamais triché. Et je me souviens, dans une page de son journal que nous avons lu après coup, il dit « J'ai vu de Atoun, et en partant, j'ai pleuré à la suite de ce qu'ils m'ont dit. » Et toujours dans le même journal, deux mois plus tard, il dit qu'il a retravaillé la pièce dans l'esprit de ce qu'on lui avait dit, et on lui a envoyé un mot pour lui dire qu'on publie en tapuscrit. Voilà les rapports. Et on l'a porté vraiment, je peux le dire, à bout de bras pendant près de 18 ans. Et tout d'un coup, le théâtre français, et même j'allais dire mondial, découvre Jean-Luc Lagarce.
Micheline Atoun.
Aujourd'hui, on pense à Jean-Luc comme un homme sûr de lui, qui en impose par son écriture, alors que c'est un homme qui est passé presque toujours à côté du succès, qui a beaucoup galéré, qui, heureusement, avait pour lui une ironie mordante qu'il s'appliquait à lui-même comme aux autres, mais qui n'était jamais méchante. Moi, personnellement, Jean-Luc m'impressionnait extraordinairement. Nos rapports étaient empreints de cérémonial, alors que la plupart des auteurs, je les ai tutoyés toute ma vie. D'ailleurs, c'est le seul auteur que je n'ai jamais tutoyé. Quand on pense qu'après sa mort, j'ai découvert qu'il m'appelait Atounette, ma seconde maman, je ne peux pas vous raconter le choc que ça m'a fait. Car lorsqu'on se voyait, il était réservé, à l'écoute, anxieux de ce que nous pouvions penser. Et un jour, il m'a dit, je lui faisais une petite remarque sur son écriture, et il m'a dit, mais Micheline, je n'ai que 26 ans.
J'ai eu 30 ans. Bon, ça ne me fit pas grand-chose depuis le temps que j'ai 30 ans. L'essentiel encore dans cette affaire de 30 ans, c'est ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent et qui, au fond, hors la mort et la maladie, ne dépendent que de moi.
Samedi 21 février 1987.
Long entretien avec les Hatoun. On dit dans les milieux bien informés que je suis leur chouchou. Je les aime beaucoup.
Pourquoi on écrit du théâtre? Je sais pas, il y a un rapport à la parole,
non,
à
non,
la
non,
langue.
Non, 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 le « on », comme vous êtes un très bon acteur.
Non, pourquoi « je » c'est un pourquoi je, voilà. Je crois que j'avais envie, puis je m'aperçois que c'est pour ça que je continue à essayer d'en écrire, c'est que c'était comment les gens parlent, comment la langue, comment le son, choses comme ça. Quand vous lisez un livre... D'ailleurs, en même temps, je m'aperçois que j'aime bien les écrivains, les romanciers, qu'on pourrait dire, qu'on pourrait lire à voix haute. Et je crois qu'au théâtre, ce qui m'importe, c'est ça, c'est comment les acteurs vont dire les choses. Le son, le rythme.
Armelle Talbot, maître de conférence en art du spectacle à l'université Paris 7.
Lui, dans Juste la fin du monde, c'est très simple ce qu'il a à dire, c'est « je vais mourir ». Ça dit exactement ce que ça a à dire, c'est très précis. Par contre, à partir du moment où on l'a dit, plus rien ne peut plus être comme avant. On ne dit pas impunément « je vais mourir ». Il faut accepter l'impact explosif que ça va avoir sur autrui. Mais cette parole, justement, ne va pas être dite, et toute la pièce va être la stratégie de contournement, d'évitement de ces trois mots « je vais mourir » qui ne seront jamais dits, sinon au début, aux spectateurs et pas aux personnages eux-mêmes. Or, ça s'inscrit par ailleurs dans un certain nombre de tendances du théâtre contemporain, la répétition-variation, le bégaiement, le ressassement, le fait d'avoir une langue qui va pas directement d'un point A à un point B, mais qui ressasse, qui hésite et qui questionne sans arrêt sa capacité à dire les choses au moment même où elle les dit. Et en même temps, chez Lagarce, ça prend cette forme très spécifique qu'est l'épanorthose. L'épanorthose, c'est une figure qui consiste à revenir sur ce qu'on a dit pour l'amplifier, le nuancer ou l'infirmer complètement. Donc il y a à la fois beaucoup d'incertitudes, de bégaiements, d'hésitations, mais il y a aussi une pulsion de maîtrise complètement incroyable. Et ça, moi, ce paradoxe, je le trouve très intéressant. Et en même temps, plus la parole essaye de se contrôler elle-même et de contrôler ce que l'autre pourrait dire et de différer le moment où l'autre, à sa façon imprévisible et violente, pourrait répliquer, plus la parole est prise dans cette pulsion de maîtrise, plus on perçoit, on sait que ça pourrait exploser à tout moment. Ça crée une espèce de tension extrêmement intéressante sur le plan théâtral.
Dites-moi que vous avez fait un bon voyage. Désolée, je suis désolée. Comment imaginer? J'étais persuadée, vraiment persuadée que quelqu'un irait vous chercher. N'importe qui. Non, pas n'importe qui, mais que quelqu'un irait vous chercher, s'en chargerait. Si nous avions su, si j'avais su, mais comment savoir? Si nous avions su, me douter, quelqu'un serait allé vous chercher. J'aurais dépêché quelqu'un.
Ce n'est rien.
C'est ennuyeux.
Non, cela n'est rien, cela ne fait rien, je vous assure.
Non.
Qu'est-ce que c'est? Je vous en prie, qu'est-ce que
ça fait?
Vraiment. Ce n'est en rien important. Je me suis parfaitement sorti seul d'affaire.
Vraiment. Vraiment, non. C'est ennuyeux. C'est malheureux. Le mot, c'est malheureux. J'en suis malheureuse. Je veux dire, c'est un exemple, vous comprenez? Exactement le genre d'incident révélateur.
Les personnages essaient d'effacer continuellement leurs traces, mais plus ils essayent, plus on voit les empreintes qu'ils laissent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans cette stratégie-là, il y a l'échelle de la réplique, comme je l'ai dit, il y a l'échelle de la fable, donc le personnage qui revient sur ses pas, il y a l'échelle de l'œuvre, avec des œuvres qui parfois sont des reprises des œuvres du passé, avec un jeu de répétition, variation, notamment Juste la fin du monde, Le pays lointain, etc. Enfin, Lagarce a beaucoup repris des pièces pour les retravailler. Tout cela se rencontre dans une espèce de mouvement réflexif qui introduit un peu de distance, un peu d'ironie, qui introduit de la mélancolie aussi, c'est-à-dire le présent est presque toujours déjà passé d'être désigné comme présent, et que cette parole ici, maintenant, lutte par le biais du style lagarcien contre son propre avènement, ça aussi c'est très beau. Alors effectivement, évidemment, Bernhardt, Duras, Beckett, Sarraute aussi à certains titres, Et en même temps, là encore, chez Lagarce, ça fonctionne d'une façon tout à fait spécifique. Dans Juste la fin du monde, on dit un moment à Louis qu'il se tient là devant les autres et qu'il ne les laisse pas entrer. La parole, d'une certaine façon, s'ingénie à ne pas laisser entrer l'autre. Et en même temps, bien évidemment, elle échoue. Lagarce, c'est un peu comme, comme Coltès ou comme Duras, c'est-à-dire ils ont vraiment une langue... très spécifique, qui en plus parasite tous les personnages. C'est-à-dire tous les personnages parlent le Lagarce, là où on pourrait avoir une approche distinctive en fonction des déterminations psychologiques, sociales, etc. C'est un auteur très facile à pasticher.
Pourquoi aussi il a une telle aura? Je pense que c'est l'écrivain d'une œuvre. C'est pas un écrivain de pièce. Donc si vous commencez à connaître une pièce, du coup une autre va vous éclairer, et une autre va vous éclairer. Et au fond, plus vous rentrez dans l'œuvre, plus les textes éclairent. Et je dirais que sur une manière, le journal est aussi un pendant de l'œuvre. Comme le petit fascicule qui est du luxe et de l'impuissance, ces textes font sur la société, sur les acteurs, sur la pensée, sur pourquoi faire du théâtre, sont des textes extraordinaires. Donc qu'est-ce qui répond à Juste la fin du monde? C'est J'étais dans ma maison. Le pays lointain, c'est Juste la fin du monde fois deux. Voilà, c'est qu'il a la famille dont on est issu et puis la famille qu'on choisit. C'est les mêmes personnages d'histoire d'amour qu'on retrouve dans Dernier remords avant l'oubli. C'est une œuvre. C'est une œuvre mystérieuse parce que, en tout cas au jour d'aujourd'hui, aucun metteur en scène ne peut se targuer d'avoir fait le tour d'une des pièces. C'est ça la force aussi, je pense, de son écriture, c'est ce mystère.
Samedi 4 décembre 1993, Saint-Brieuc, 13h20.
Ce que je voudrais dire, c'est combien... Ce fut toujours, mais cela s'est aggravé ces dernières années. Combien je me sens très peu intégré, peu inscrit dans le théâtre français. Je ne me sens pas un écrivain, jamais. Et c'est douloureux, mais c'est ainsi. Et je suis pourtant considéré comme tel, et bien considéré, sans prétention, respecté, et d'autant plus depuis quelques années, alors que je n'écris plus rien. Bizarre. Un autre sentiment, encore. Le sentiment que j'avais énormément travaillé. En 10 ou 12 ans, j'ai écrit une douzaine de pièces, et j'ai fait 18 mises en scène, et les deux films vidéo, et tout ce travail, cette masse de choses, me paraît n'être rien, n'avoir rien donné de bien bon, de nécessaire, qui puisse me survivre, alors que les autres, le monde, semblent avoir entendu, vu, et commencent peu à peu à le percevoir comme une masse. Pour les autres, je suis un auteur, je suis un metteur en scène, et moi, je suis juste un corps malade, une personne qui a raté sa vie. C'est cette absence de vérité, de justesse entre mon regard et celui des autres qui me laisse si solitaire. C'est de là que vient ce sentiment mélancolique de l'échec.
Ce journal, il existait, vous saviez qu'il existait. Et puis François Béreur a décidé de le publier. Et là, vous êtes tous redécouverts un peu, vous avez un peu redécouvert l'histoire.
Oui, oui, bien sûr, on savait qu'il existait ce journal.
Mireille Herbstmeyer.
Quand on voit quelqu'un tous les jours, ce qui était quasiment le cas avec Jean-Luc. Si vous voulez, comment dire, quand ça va bien, c'est pas écrit dans le journal. C'est-à-dire qu'un journal, c'est quand même quelque part un cahier de doléances. Donc évidemment, quand on ouvre la chose et puis qu'on voit une image de soi qui ne correspond pas forcément à ce qu'on pensait être pour la personne en question, c'est toujours très violent. Non, mais je sais pas, nous, il nous prend pour des gamins. Alors, ça, c'est très rigolo parce que, bon, ben, en effet, pendant toute une époque, c'est vrai qu'on était des gamins. Mais, bon, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il est mort à 38 ans. Alors, c'était encore un jeune homme, quelque part. Alors, évidemment, nous, le journal, il paraît, on a 45 ans, bien tassé, donc, voire 50. Il y a eu du temps par-dessus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, bah oui, c'était le journal d'un jeune homme, quoi. Ou d'un homme jeune, comme on veut. Bon. Donc avec, bah oui, aussi avec des colères par rapport au monde qui l'entoure, des rages aussi parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a, bon, voilà. Alors après, bon, bah, on est vu d'une certaine manière, puis d'un seul coup, il y a une phrase très gentille. Donc, bah, ça rachète le reste. Et puis de toute façon, c'était sa vision à lui.
Vous, Elisabeth Mazeff, comment vous avez connu Jean-Luc Lagarce?
Au théâtre, bien sûr.
Il est venu voir, j'avais déjà entendu parler de lui, il est venu voir Paul Yeucht, mis en scène par François Rancillac, et je crois qu'il n'a pas tellement aimé. Je me souviens juste de sa silhouette, son incroyable silhouette, tout en longueur, tout de cuir habillé avec une chaîne qui reliait sa ceinture à sa poche arrière. J'ai appris plus tard que c'était pas des menottes, c'était son portefeuille, parce qu'il le perdait régulièrement. Mais c'est vrai que le personnage était très impressionnant, comme ça, le crâne rasé, blouson de cuir, le pantalon de cuir, la grosse godasse.
Et dans les années 90, c'est ça, au début des années 90.
On est au tout début des années 90, puisqu'il est mort en 95, les 5 dernières années de sa vie. Il avait cette épée de Damoclès du sida au-dessus de la tête. C'est écrit dans son journal, il savait qu'il allait mourir. Il avait cette intuition-là. Et peut-être que ça donnait aussi plus d'intensité aux relations. C'est vrai que 5 ans, au fond, c'est pas énorme, mais c'est quelqu'un qui est important dans ma vie. C'est quelqu'un que je vois très régulièrement dans la rue. Voilà, il fait partie des morts très vivants. Il y en a qui sont très morts, et puis lui, il est très vivant. Il a monté Nous les héros, donc ce collage sur lequel il travaillait depuis 20 ans, qu'on a créé à Belfort, puis qu'on a joué au Théâtre de la Cité universitaire. Puis là, il est tombé malade, il est allé à l'Hostou, il a vu aucune des représentations à Paris, je crois. Ou la première. Je me souviens du soir de la première, il ne se sentait pas bien. Il me dit, est-ce que tu peux me ramener en bagnole? Je l'ai fait. Il était terrorisé parce qu'il trouvait que je conduisais très mal. J'ai fait un demi-tour sur les Maréchaux. Il était agrippé comme ça, avec les genoux sous le nez, parce que la voiture n'était pas assez grande pour ses grandes cannes. J'ai ramené chez lui, puis le lendemain, il est rentré à l'Hosto, et après, on l'a plus revu pendant toute la durée des représentations. Et puis, on l'a retrouvé, Olivier et moi, on a dîné avec lui peut-être 2 mois plus tard, et c'était une espèce de renaissance. Il était tout beau, il avait repris du poil de la bête, il s'était fait refaire, il avait un superbe sourire. Et c'est une de mes soirées mythiques. Elle reste dans mon panthéon de soirées. C'était une soirée entre Olivier et Olivier Pie et Jean-Luc Lagarce, deux grands noctambules, donc la nuit homosexuelle parisienne. Et ils ont parlé de cul pendant toute une soirée. Moi, j'étais là, je comptais les points. Et c'était Don Juan et Casanova. C'était le catalogue. C'était 1000 lettrés. Et moi, j'étais là et je comptais les points.
La fille, elle. Elle les regarde, je crois.
Le premier, côté droit, ce que je me suis laissé dire et entendu encore dans les endroits les plus reculés où nous passions à nouveau et où on pouvait se souvenir d'elle et de ses accompagnateurs.
Et endroits encore où n'avaient pas fermé leurs portes et fait faillite ou sombrer. Le plus souvent dans le marasme le moins propre à ce divertissement. Et endroits où vous voulez bien encore l'accepter. Parce que... Faudrait pas oublier les choses telles qu'elles sont et ont toujours été.
Le premier, côté droit, moi à ma place, fondateur de cette part-là à l'origine, fut son mari. Et l'autre, toi là, de ton côté.
Son amant le plus proche.
Une jolie histoire, mais trop jolie pour être exacte. Et si exacte fut, ne saurait-ce maintenir dans la tradition.
La fille, elle venait comme ça, du fond là-bas. Elle entrait, elle marchait lentement, du fond de la scène vers le public, et elle s'asseyait. Parfois, c'est arrivé plusieurs fois, parfois parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'entrer par le fond ou parce que la scène n'était pas assez profonde ou d'autres fois encore parce que la lumière avait dû être réglée autrement. La fille, alors, c'était une habitude qui avait été prise pour faire face à ce genre d'incident. La fille entrait sur le côté, dans le fond de la scène, et alors, assez habilement, je dois dire, elle effectuait un léger demi-cercle et gagnait ainsi la ligne centrale pour avancer, comme si de rien n'était, vers le public et s'asseoir au même endroit, de la même manière, lente et désinvolte.
C'est l'auteur de la fin du XXe siècle. Il décrit le retour impossible, le départ de son milieu d'origine, la solitude, la mort... Oui, c'est un portraitiste incroyable de cette fin de siècle. Et puis, le fait qu'il soit mort en 95 et mort du sida, c'est pas. Je pense que s'il était mort d'autre chose, ça aurait pas. Évidemment, ça aurait pas été cette grille de lecture et ça aurait pas été. Ça aurait pas eu le même impact. Non, je crois, je pense. Il disait que le sida n'était pas un sujet, et c'est vrai. Il y a peu d'artistes qui ne s'inspirent pas. de ce qu'ils ont vécu. Parce qu'au fond, quoi d'autre, comme terreau? C'était un homme de culture, un homme cultivé. C'était un grand lecteur, donc il lisait les auteurs contemporains, mais il connaissait ses classiques. Et pour la musique, c'était pareil. Des disques et des livres, c'est pas ce qui manquait chez lui.
Dans Music Hall, il y a cette chanson fétiche, c'est la chanson de Josephine Baker.
Oui, Josephine Baker. Ah ouais. Ne me dis pas que tu m'adores. Oui, oui. Où est-ce qu'on la retrouve? Sur la version longue de son journal.
Dans le film vidéo qu'il a
réalisé.
Oui,
dans le film vidéo. D'accord. Dans la version d'une minute, je sais que c'est sur Où sont tous mes amants. Oui, c'est vrai que si on doit le résumer en deux chansons, ces deux-là sont pas mal.
Mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants?
Est-ce qu'il inspire toujours les jeunes metteurs en scène? Est-ce que ces textes sont
Il semblerait, je sais pas, là, j'ai pas vu le programme d'Avignon, mais il n'est pas dans le in, mais dans le off, il doit y en avoir au moins une centaine de la
garde. Les amateurs aussi s'en saisissent, amateurs.
Mais oui, parce qu'au fond, c'est une vraie personne, Jean-Luc aussi. Après, il y a eu le personnage littéraire, mais au fond, c'était un provincial de Valentinier. Près de Montbéliard, les parents qui travaillaient chez Peugeot, comme ils disent là-bas. Et c'est peut-être pour ça que les amateurs, je ne sais pas, ils se reconnaissent là-dedans. C'est du vrai. C'est vraiment une chose. Il est ancré dans le réel. On a beaucoup ri. Je le dis à chaque fois, mais je tiens à le dire. Ça a été 5 années où on a raconté beaucoup de conneries. On a beaucoup ri, même dans le désespoir le plus profond, même. Et peut-être à cause de cette épée de Damoclès qui était au-dessus de sa tête directement, puis des nôtres, parce qu'on savait qu'on l'accompagnait vers la fin. On a beaucoup, beaucoup ri. Et puis c'était un orateur, quand même. Moi, je me souviens de dîners mémorables à la Coupole, où il était quand même capable de tenir le crachoir pendant des heures, et des gens écoutaient leur... ses blagues, écouter raconter ses histoires, c'était un orateur et pas tant. Grand conteur. Et puis ouais, on s'est poilé. Qu'est-ce qu'on a ri. Et ça, c'est bon. Personne ne nous l'enverra, ni la Camarde, ni personne. Ça, la mort ne peut pas nous le prendre. On a ri.
On est dans une période, par exemple, où on a une maladie. C'est mon cas, c'est le cas de plein de gens. Bon, enfin, de plein de gens. Par exemple, le fait de dire qu'on est de sida ou qu'on l'a pas, on se dit « Ah, c'est étonnant parce que les gens peuvent parler. » Il n'y a aucun mérite à ça. Ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'était pas tabou pour moi. C'est tabou pour des tas de gens dans ce pays, étrangement. Hein, il n'y a pas de choses taboues parce que les choses taboues, je ne les connais pas. Donc, de toute façon, si je les connaissais, je m'efforcerais de les dire. Mais si je les disais, c'est qu'elles ne sont plus taboues. Voilà.
Mais Jean-Luc Lagarde, c'est la première fois que vous me dites ça.
C'est-à-dire que je dis quoi sur
vous parlez du sida, moi je n'ai jamais parlé avec vous.
Nous sommes restés, Gary et moi, nous sommes restés ces 2 jours-là sans nous quitter, sans jamais vouloir nous quitter. Nous sommes allés dîner. Nous sommes allés au cinéma et ensuite nous sommes allés dîner. Et nous avons choisi cette fois de passer la nuit chez moi. C'était comme ce fut toujours, le souvenir aujourd'hui que j'en garde. Ce fut, le souvenir que j'en garde, une nuit très douce, très belle. Une nuit très douce et très belle.
Le bain, tu sais vous un bucon ?
Oui, très bien, c'est un texte... qui, d'une manière aussi délicate que possible, rappelle aussi l'homosexualité de Jean-Luc, c'est le corps d'un malade dans un bain qu'il lave et qu'il aide avec délicatesse alors que l'autre est sur le point de mourir. En quelque sorte, Jean-Luc est à la fois celui qui aide et celui qui est très malade dans le bain. Aussi, une des caractéristiques de ce théâtre, c'est qu'il peut être très drôle comme les prétendants, mais il peut être très très émouvant aussi.
Nous avons fait doucement l'amour. Est-ce qu'on peut dire cela? Je ne sais pas. Nous nous sommes caressés. Nous nous sommes embrassés sans fin, toujours très longtemps. Appelons cela ainsi, nous avons fait l'amour. J'avais peur de le briser, d'avoir un geste qui puisse le faire souffrir. Je ne savais plus. On prend un long bain. Lui, posé sur moi comme un enfant malade. Son corps superbe en train de se défaire. Je l'aide à entrer doucement dans la baignoire. Son corps de vieillard, détruit. Je le porte à peine et je le laisse très lentement glisser pour qu'il s'asseye enfin. C'est difficile. Cette manœuvre si simple devient une véritable épreuve physique. Une aventure immense. On rit. On hurle de rire. On rit de notre difficulté, là, tous les deux. De notre incapacité à accomplir des gestes imbéciles. Je me suis glissé sous lui et il est posé sur moi. Et on somnole ainsi longtemps, l'après-midi, à remettre régulièrement un peu d'eau chaude. Doucement. On dort enlacé. C'était comme le bonheur le plus grand. Aujourd'hui, le souvenir que je garde. C'était comme le bonheur le plus grand d'être si paisible et le désespoir encore de savoir qu'on se quitte. On parle de nos parents, de nous, enfants, si différents. L'enfance dans son pays et mon enfance ici, dans ma province triste et méchante. Je ne crois pas que nous en ayons jamais parlé, c'est drôle. On parle de nos amours. On s'abandonne. Nous nous faisons nos adieux.
Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon.
Pour moi, il ressemblait à un spectre, il me faisait un peu peur. Grand, extrêmement maigre. Assez laid, je dirais. Une laideur imposante de spectre. D'autant plus que c'était le cas à cette époque-là. Autour de moi, tout le monde mourait. Il faut bien dire que Jean-Luc, sur les dernières années, n'aimait plus personne. Il était devenu totalement misanthrope. Il aimait les beaux garçons. Je pense que j'ai dû lui plaire à un moment, mais j'en ai pas été conscient. On n'a jamais couché ensemble, hein. Je pense que j'ai dû lui plaire. En lisant le journal, je me suis rendu compte qu'il est d'une amertume sur la dernière année que je n'imaginais pas. Une très, très, très grande amertume. Comment ne pas l'être ? Enfin, il a travaillé, il a fait des œuvres, il n'a pas connu le succès, il a écrit des beaux textes, il est mourant. Nous allons continuer à vivre notre jeunesse et lui, il va partir. Oui, il y a une amertume qui l'étrangle.
Vous parlez de l'ami, on peut parler aussi du metteur en scène, sa direction d'acteur, sa façon de travailler.
Pas bon, pas bon. Pas du tout un bon metteur en scène. Ce n'était ni un metteur en scène, ni un directeur d'acteur. C'était un auteur. C'était peut-être plus qu'un auteur. C'était un écrivain. C'était pas un poète, mais c'était un écrivain. Et c'était pas du tout un metteur en scène. Il avait une vision de la mise en scène un peu protestante. Un peu sage, un peu statique, un peu classique, un peu raide. Et ce n'était pas du tout un grand directeur d'acteur. C'était un admirable dramaturge. Quand il lisait une pièce, il avait une vision que personne n'avait eue avant. Par exemple, le malade imaginaire. Il voyait bien que le raisonneur aussi, ce qu'on appelle le raisonneur chez Molière, est aussi fou que l'autre. Ils sont tous fous. Il voyait que la femme du malade couchait avec le notaire. C'est dit à petits mots. Alors quand on donne ça à des acteurs, on peut faire du jeu. Après, il n'était pas un directeur d'acteur. Il avait eu une renommée d'auteur courte, parce qu'il avait été monté par la Comédie Française, à Théâtre Ouvert, dans un cadre assez luxueux. Ensuite, comme metteur en scène, il était très méprisé. et comme auteur très méprisé. Il faut lire les critiques qu'on a eues à l'époque, hein. C'était épouvantable. Non, franchement, à cette époque-là, je parle de la fin des années 80, le milieu des années 90, c'était un ringard. Il était l'exemple même du ringard. C'est au moment où il est mort que ça commençait à basculer. Moi, j'avais tout lu. J'avais même lu ses essais romanesques. Et puis, c'est vrai qu'on se voyait beaucoup et qu'on parlait de la difficulté d'être édité. Et c'est là qu'il a eu l'idée de faire une maison d'édition qui lui a été posthume. Et j'ai été l'opus 1 de cette maison d'édition. Il est mort pratiquement la même année que Gabili. Ni l'un ni l'autre n'était destiné à une carrière posthume. Ni l'un ni l'autre. Et quand j'ai fait Nous les héros, Nordé faisait la même année. J'étais dans ma maison. Personne n'a dit quel auteur extraordinaire. Moi, je pense que Nous les héros reste sa meilleure pièce. C'est la vie d'une tournée ringarde. Ça se passe quelque part en Europe de l'Est, mais c'était notre vie à nous de tourner un peu difficile, un peu dur. C'est vrai que ce que j'aimais bien dans mon contact avec Jean-Luc, qui n'était pas toujours facile, c'est à quel point nous étions différents. Enfin, moi, j'étais un catholique baroque et lui, un protestant retenu. Et ça, je crois qu'il y avait une fascination en miroir, comme ça, par opposition. Ce qui est peut-être plus étonnant, c'est que l'idée que nous avions, pas seulement Lagarce et moi, mais plein d'autres, Gabili et Rambert, et je pourrais en citer beaucoup, des Hubert Collat, des très nombreux. Nous avions l'idée qu'il fallait réinventer la scène par l'écriture. Nous étions des auteurs, mais des auteurs metteurs en scène, comme on l'avait dit à une certaine époque pour le cinéma d'auteur. Nous, on faisait du théâtre d'auteur. Ça ne voulait pas dire qu'on était des mauvais metteurs en scène. On avait des modes de mise en scène très différents les uns des autres. Mais on partait de l'écriture d'un poème. Nous avions cette idée-là. Il faut faire un nouveau poème pour changer l'art de la scène. Parce que la mise en scène, elle réinvente la roue, elle s'épuise. Les 1000 versions du misanthrope, c'est toujours les mêmes. Au fond, on revient toujours aux mêmes idées. Non, il faut un poème nouveau.
Un matin, il m'a laissé des papiers ouverts dans sa chambre. Alors, du coup, on en parlait à mi-mot, mais on se comprenait les deux. Et puis, quand il est venu, 15 jours avant qu'il meure, qu'on a encore été marcher. Et puis en redescendant, il m'a dit « Tu diras à Patricia de ne pas mettre parrain de son gamin. » J'ai dit « Oui, je te comprends. Je savais pourquoi. » Puis comme elle ne savait pas, puis 15 jours après, il est parti.
Vous vous rappelez du jour de sa mort? Vous vous souvenez de cette date-là, de ce jour-là?
J'étais avec Elisabeth en vacances, on a appris qu'il était mort. Et nous sommes allés, c'est pas une fiction, nous sommes allés à Verdun, puisque la troupe jouait la cagnotte, je crois, à Verdun, pour retrouver la troupe. On a vécu la vie de la troupe à ce moment-là, à Verdun, dans une pizzeria, pour être ensemble ce jour-là. Oui, je me rappelle qu'on a pris le train immédiatement et qu'on a rejoint les quelques-uns, Mireille, François...
Dans une situation très lagarcienne, dans une ville de province, un repas de fin de spectacle.
Absolument, dans une ville de province, dans une pizzeria, ouverte après le spectacle, une comédie qui s'était jouée comme elle avait pu. Drôle de chose.
En ce qui concerne mes obsèques, je souhaite être incinéré, si possible à Paris, au cimetière du Père Lachaise, au cours d'une cérémonie la plus rapide et la plus intime possible. Ni fleurs, ni couronnes. Aucune intervention religieuse de quelque ordre qu'elle soit. Aucune inscription ensuite ne sera inscrite sur quelque plaque ou monument que ce soit. Ni date, ni même mon nom. Rien. Ce sont donc les dernières volontés de Jean-Luc Lagarce. C'était fait à Paris, le 1er avril 1994. Jean-Luc Lagarce était en pleine activité, en pleine action. Il surveillait les raccords de ses tournées et il répétait lorsque, vendredi dernier, il a eu une attaque. Et vous le savez, il nous l'a dit à France Culture, il était malade du sida. Et samedi dernier, il est décédé donc du sida.
Je vais vous raconter un truc inédit. Après la mort de Jean-Luc, j'étais tellement bouleversée que j'ai demandé à François Béreur, avant qu'il ne liquide l'appartement de Jean-Luc, j'étais jamais allée chez Jean-Luc. Et je lui ai demandé si je pourrais aller voir cet appartement. Dans le 14e, à côté de la place de Catalogne. Et il m'a dit oui, bien sûr. Et cet appartement était incroyablement austère. Il était tout en noir et gris et un peu de blanc. Chaque objet très très rangé, peu d'objets, tous d'un goût exquis, et au mur des photographies de Mapplethorpe. C'était d'une étrangeté. Moi, j'aurais jamais pu vivre dans cette atmosphère oppressante et méticuleuse. Méticuleuse. Tous les disques, tout était nickel, très rangé et très sélectif et totalement à l'image de sa tenue vestimentaire, car il était souvent, ou pour ne pas dire toujours, en noir. Et cet appartement était encore un autre aspect de sa vie faite d'austérité, de travail et d'homosexualité, il faut bien le dire, puisque toutes les photos au mur représentaient des choses de cet ordre. Et c'était très impressionnant.
Après ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard. Une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent, c'est dans le sud de la France. Et je marche seul, dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre, ce que je pense. Et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai.
C'était Jean-Luc Lagarce, 1957-1995, juste avant la fin du monde. Un documentaire de Julien Thève et Nicolas Berger. Prise de son Georges Thau, Stéphane Beaufils. Mixage Éric Boisset. Texte lu par Olivier Martineau, Archivina Sandra Escamez. Extrait 2 Du luxe et de l'impuissance. Juste la fin du monde, ébauche d'un portrait, les prétendants, Music Hall, le bain. Attaché d'émission, Claire Poinsignon, coordination, Irène Omelianenko.
Une vie, une œuvre que vous pouvez réécouter ou podcastée sur le site de France Culture. Vos commentaires sont bienvenus sur Twitter ou Facebook. Rendez-vous samedi prochain à 16h pour Une vie, une œuvre consacrée à Aimé Césaire.